Chapitre 74. Quatre armes se braquèrent sur Boris Karloff qui, tranquillement, poussait un fauteuil roulant dans leur direction. Un siège dans lequel se tenait une créature recroquevillée, au visage en biais, comme s'il avait reçu un choc avec un haltère. Clarisse Lansall, diminuée, fossilisée, à l'image de sa propriété. Karloff portait le pull noir avec le sigle. Sa manche droite était relevée, dévoilant une aiguille de perfusion plantée dans son avant-bras. Idem pour Lansall. Tous deux étaient ainsi reliés à la même poche de liquide qui pendait à l'un des montants du fauteuil, ce qui donnait l'impression d'un être hybride. Les lèvres de la femme Pierre s'écartèrent avec peine, et elle souffla d'une voix métallique.
« On se doutait bien que vous finiriez par débarquer ici. Ça ne pouvait pas durer éternellement. On a donc pris nos dispositions. Vous comprendrez aisément qu'il est hors de question qu'on soit séparés l'un de l'autre. »
L'homme leva le poing, dans lequel il serrait une sorte de bouton poussoir.
« Chlorure de potassium, » continua Lansall. « Vous connaissez, je crois. Les résultats sont instantanés. Et vu la quantité qui va être injectée, il n'y aura pas de retour possible. »
Un craquement résonna dans sa poitrine. Son visage se tordit plus encore de douleur. Frank plaqua une main sur le torse de Nicolas lorsqu'il fit mine de s'approcher.
« Putain, mais qu'est-ce que vous avez fait ?»
s'écria malgré tout Bélanger.
« C'est quoi tout ça ?»«
L'espoir, » répliqua Karloff d'une voix posée. « Quoi d'autre ?»
Son regard plongea dans celui de Charcot. Luisait dans l'obscure teinte de ses iris une étincelle de folie.
D'ici à 10 ans, la grève de tête ne sera plus une chimère. On offrira à des patients qui souffrent de maladies génétiques incurables, comme celle de Clarisse, les corps intacts d'individus en mort cérébrale.
Charcot n'arrivait pas à intégrer ce que ce timbré lui racontait. Comment imaginer le corps d'Audra avec la tête de Lansall? Comment quelqu'un pouvait-il penser une seule seconde à cette fusion de deux mémoires différentes, celle du cœur et celle de l'esprit? Le mythe de Frankenstein, de l'homme reconstruit, rapiécé, lui revint en pleine figure. Toute cette folie n'était donc pas l'apanage de la littérature.
Seulement, Clarisse, elle, n'a plus 10 ans devant elle, continua Karloff. Chaque jour qui passe est une souffrance abominable. Il existait une version pour souris de cette machine que Clarisse avait fabriquée à l'Inserm. Une mécanique qui était capable de maintenir en vie non pas une tête entière, mais un petit cerveau animal, avec un système de pompe, de radiateur et de poche de sang. Une décennie de travail, tant de difficultés à surmonter. Pour adapter ça à l'homme, il restait 2 questions essentielles à résoudre. La première, est-ce que le procédé fonctionnerait avec un organe plus important et surtout plus complexe? Et la seconde, non moins essentielle, qu'adviendrait-il de la conscience humaine? C'était un territoire totalement inconnu que nous avions à explorer. Et nous aurions bien été en peine de prédire de quelle manière réagirait le cerveau une fois privé de ses 5 sens.
Frank observa ses coéquipiers, sidéré comme lui. Juste derrière eux flottait le cerveau désincarné d'Emma Doty. La femme qu'elle avait été se trouvait à la fois là et ailleurs, présente et absente, morte et vivante, piégée dans une sorte de chambre noire, sans oreilles, sans yeux, incapable de bouger, sans possibilité de hurler. Une souffrance infinie dont une infime partie filtrait par le biais de l'écran. Un cerveau qui n'avait rien d'autre à faire que de penser, penser, penser.
Grâce aux électrodes que nous avons implantées, on sait aujourd'hui mesurer avec une grande précision les signaux électriques issus de chaque région et, avec l'aide de l'intelligence artificielle, les retranscrire sur un ordinateur en langage clair,
intervint Lansall.
Lire dans les pensées n'est plus une expression ni de la science-fiction. Cette technologie était le meilleur moyen d'accéder à l'état d'une conscience. Bien plus performante, finalement, que tous les scanners du monde.
La scientifique s'interrompit. Ses mains, deux serres d'aigle, se crispèrent un peu plus encore. Parler lui demandait un effort éprouvant.
Le cerveau que vous voyez là est viable, et il pense. Il n'arrête pas de penser. Le jour, la nuit, les phases de sommeil n'existent plus. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de la portée de cette découverte et de tout l'espoir qu'elle aurait suscité pour les années à venir. C'est comme si nous avions inventé une nouvelle forme de vie. En continuant à développer cette machine, on aurait pu sauver les personnes malades comme moi, mais aussi lutter contre la vieillesse en offrant, d'une certaine façon, l'immortalité à cet organe.
Franck imaginait des légions de cerveaux alignés dans des cuves, branchés de partout, attendant une nouvelle enveloppe, jeune, hâlée, aux muscles fuselés, de la pure démence.
Vous comptiez vous appliquer ce procédé à vous-même ?
Lâcha-t-il d'une voix dont il ne put cacher la fébrilité.
Évidemment, si nous avions eu plus de temps, si les résultats avaient été plus concluants, Boris se serait chargé de l'opération, avec l'aide de Victor et Tranché. Mais, vous l'avez compris, je crois, il semblerait que la souffrance d'une conscience sans son enveloppe charnelle, quelle que soit la forme qu'elle prend, soit la pire des tortures.
Le commandant sentait le souffle de ses collègues dans son dos. La tension était palpable. Dès que l'un d'entre eux faisait un geste, le pouce de Karloff se contractait sur le bouton. Le chef de groupe tenta de jouer la montre.
« C'est quoi le rapport avec la faille ?»
La gorge de Landsal sifflait, comme si elle manquait d'oxygène. Karloff répondit avec un calme déstabilisant. Un feu monstrueux, maudit, brûlait dans les yeux de ce couple de timbrés.
« Je connaissais Marc depuis plus de 15 ans. C'est grâce à lui que Clarisse et moi sommes tombés amoureux. Quand il a appris pour sa maladie, ça lui a mis un sacré coup. Ils avaient gardé un lien indéfectible depuis leurs études. Un jour, il y a environ 2 ans, il nous a rendu visite et nous a révélé qu'il y avait peut-être une piste à explorer. Que, pour ce faire, il allait falloir reconstruire la machine élaborée à l'Inserm, mais dans un modèle plus gros. J'ai tout de suite parfaitement vu où il voulait en venir. C'était de la folie. Et j'étais sûr que ça ne fonctionnerait jamais.
Landsal essaya de rire, mais s'étrangla. Son compagnon marqua une hésitation, prêt à lui apporter son aide, sans relâcher sa vigilance pour autant. La femme retrouva finalement son souffle et prit le relais.
Sa véritable idée était en réalité beaucoup plus dingue que ce qu'on imaginait. Il nous a annoncé qu'il était hors de question que je serve de cobaye, qu'il disposerait de la matière première nécessaire pour tester le procédé. C'est là qu'il nous a parlé de ses découvertes et de son projet délirant de faille. Marc a toujours cherché à établir la preuve que la conscience ne dépendait pas à 100% du cerveau, qu'il y avait des événements au-delà de la rigueur scientifique des neurosciences qui ne pouvaient pas s'expliquer. Il s'était donc donné comme mission de contacter des gens clandestinement dans le but de les tuer, puis de les ramener à la vie pour les interroger sur leur voyage.
Elle inclina la tête vers Charcot.
Vous êtes au courant de cette partie-là, il me semble.
Karloff passa d'un geste délicat sa main libre dans les cheveux de la femme Pierre et poursuivit.
C'était complètement fou. Cet homme était fou, mais d'une intelligence rare. Quant à moi, je ne supportais plus de voir l'état de la femme avec laquelle j'avais décidé de vieillir se dégrader, de l'entendre hurler de douleur en pleine nuit. J'ai recontacté Marc. J'ai accepté de participer à l'expérience aux côtés de Tranchet. Le deal était simple. Je mettais son plan en place et il allait m'aider à sauver Clarisse. Ensemble, on est descendu dans les catacombes. On a envoyé des gens vers la mort. La plupart du temps, on réussissait à les faire revenir et on récoltait leurs témoignages, mais d'autres fois... Il poussa un soupir. Tranchet se chargeait de les faire disparaître quand ça capotait. En parallèle, on reconstruisait la machine de l'Inserm ici, en plus grand, plus ambitieux. Les obstacles techniques étaient immenses. Pour perfuser un cerveau post-mortem, il faut faire circuler du liquide dans un labyrinthe de minuscules capillaires qui commencent à coaguler quelques minutes après la mort. Il était donc essentiel de tout connaître au sujet de ce système vasculaire et de la manière dont le sang se déplace dans le cortex, ce qu'on appelle les rythmes pulsatiles cérébraux. C'est ma spécialité. Tout devait être parfaitement contrôlé, calibré.
Ses yeux se portèrent vers la machine. Il la regarda comme une mère regarde son enfant.
Quand elle a enfin été prête, on l'a testé avec des cerveaux de porc qui sont physiologiquement très proches des nôtres. Une vraie course contre la montre, entre l'abattoir et le sanatorium, à coups de bac remplis de glaçons pour éviter que les organes ne soient trop abîmés durant le transport. Et ça a marché. Deux des six organes qu'on avait pu récupérer ont continué à vivre. Grâce au procédé qu'avait inventé Clarisse, il n'y avait pas de dégradation des tissus. Aucune croissance bactérienne. C'était incroyable. Et puis les porcs ont fini par ne plus suffire. Vous êtes passé au niveau supérieur. On était allé trop loin. On ne pouvait plus reculer.
D'un mouvement de tête, il désigna le cylindre de verre.
C'est tombé sur Emma Doty, comme ça aurait pu tomber sur n'importe qui d'autre. C'était elle, et c'était le bon moment. On l'a amenée directement ici après la rencontre dans les catacombes. Je crois que, quand elle a vu ce laboratoire, elle a compris qu'elle n'en sortirait pas. On l'a endormie, elle n'a pas souffert. Je me suis occupé de l'ablation du cerveau sur cette table, là-bas. Et Tranché s'est ensuite débarrassé du corps, grâce au CDC.
Charcot osait à peine imaginer le réveil d'Emma. Ce cerveau conscient, suspendu dans son cylindre, mais incapable de le savoir. C'était une abomination.
« Vous êtes des ordures de la pire espèce !»
cracha Nicolas en pointant son arme dans leur direction.
« Vas-y, envoie ta sauce espèce de fumier, ou c'est moi qui te loge une balle dans le crâne !»
Charcot abaissa le bras de son coéquipier et tempéra de la main. Malgré sa rage, il les voulait vivants. Il voulait qu'ils payent pour leurs crimes, pas comme Fermont.
« Ne faites pas ça !»
Boris Karloff demeura d'abord immobile, puis s'agenouilla à côté du fauteuil. Aussitôt, le chef de groupe se jeta en avant, mais l'homme fut beaucoup plus rapide. En une fraction de seconde, le liquide courut dans les tuyaux jusqu'à leurs veines, et Karloff enlaça Lanzal, comme pour la protéger. Celle-ci poussa un long hurlement de douleur, un cri insupportable qui heurta chaque mur de la pièce. Le fauteuil se renversa, et les amants restèrent figés, l'un contre l'autre, pareil à deux êtres pétrifiés de Pompéi. Frank arracha la poche, mais il était trop tard. Les corps se relâchèrent, inertes. C'était fini. Dans un flottement qui semblait en dehors du temps et de l'espace, Frank se redressa. Il se sentait fébrile, un vertige le saisit. Son équipe était là, autour de lui, solidaire. À cet instant, elle lui donna l'impression que, malgré toutes les horreurs du monde qu'il côtoyait, leur lien ne pourrait jamais être ébranlé. Pendant plusieurs minutes, un silence absolu régna sur le sanatorium. Aucun d'entre eux ne sortit son téléphone pour prévenir qui que ce soit, parce que tous savaient que, auparavant, il leur restait un dernier geste à accomplir.
« Qui est pour ?» demanda Frank.
Nicolas leva la main le premier. Puis ce fut Pascal. Le commandant de police se tourna vers sa femme, qui acquiesça. Franck la regarda longuement. Encore une fois, ils allaient franchir les limites. Mais quelles limites, finalement? Celles imposées par des fous? Lentement, il se dirigea vers le cylindre en verre. Il avait été scellé à la table par un cerclage avec des boulons et était hermétiquement fermé par le dessus.
« Je peux m'en charger, si tu veux, » proposa Nicolas. « Je suis votre supérieur, c'est à moi de le faire. Par contre, rien de ce qui va suivre n'a existé, on est bien d'accord ? C'était déjà comme ça quand on est arrivé. »
Ils hochèrent tous la tête. Charcot demeura un moment face à la paroi. Puis la frappa à plusieurs reprises avec la crosse de son arme. Elle vola en éclats, provoquant un léger chuintement d'air.
« Je suis désolé, Emma. Tellement désolé. »
À qui s'adressait-il en réalité? Est-ce qu'il s'apprêtait à tuer un être humain? Il l'ignorait. Ce qui se passait là, c'était trop pour lui, pour sa simple condition de flic. Mais il était persuadé d'une chose. Il ne pouvait pas laisser Emma, ou ce qui en restait, dans cette zone grise. Ce monde abominable entre mort et vivant. Il prit son inspiration et le cœur lourd tira sur les deux tuyaux qui assuraient la circulation du sang. Le liquide pourpre, chaud, symbole de vie, se déversa doucement à ses pieds. Leurs regards à tous les quatre se tournèrent alors vers l'écran de l'ordinateur. 18h49min14s, E. Doty. Soleil vert manque au temps. C'est quoi vert, et bleu, et jaune? 18h49min53s, E. Doty. Tourner en rond et danser. Si léger avec les fleurs, et la mer, la si belle mer. Et ce, 18h50min22s, E. Doty.